Mondial Sport sur RFI. Frédéric Suto.
Bonsoir, bonsoir à tous. Dimanche 5 mai 2019, Mondial Sport, nous revoilà, hein, même équipe qu'hier, Fabrice Viollet à la réalisation, pour vous dire cette fois que les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane disputeront la finale de la Coupe de la Confédération face aux Égyptiens du Zamalek. Pas de finale en revanche pour les deux clubs tunisiens, le club sportif sfaxien et l'Étoile du Sahel. Les demi-finales retour de la C2 Afrique, on y revient dans un instant avec Antoine Grenier. Le retour sur terre du maestro Roger Federer, légende vivante du tennis. Il n'avait plus joué sur terre battue depuis 3 ans. Il y revient à l'occasion du Masters 1000 de Madrid qui débute demain. Reportage dans 10 minutes de Pierre Chaperon. Les handballeurs du Paris Saint-Germain éliminés dès les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens avaient 10 buts à remonter face aux Polonais de Kielce. Ils ont gagné 35 à 26, plus 9. Insuffisant, nous dira Christophe Dieremzian. Nous reviendrons aussi sur la liste des 23 de Corinne Diacre, sélectionneur avec un E de l'équipe de France féminine de foot. Elle a choisi, elle a tranché les 23 joueuses qui disputeront la Coupe du Monde de juin prochain, ce mondial féminin de foot qui va se disputer en France. Mais cette musique, tout d'abord, pour ouvrir Mondial Sport, elle vous dit peut-être sans doute quelque chose, surtout si vous êtes brésilien. C'est la musique que la télévision brésilienne diffusait lors des victoires d'Ayrton Senna, le pilote de Formule 1. Un hymne qui lui collait à la peau, Ayrton Senna, l'homme aux 41 victoires en Grand Prix. Ayrton Senna, 3 fois champion du monde de F1, dont la trajectoire s'est arrêtée le 1er mai 1994 sur le circuit d'Imola. Cette sortie de route fatale dans le virage du Tamburello au 6e tour du Grand Prix de Saint-Marin. La mort d'Ayrton Senna, cela faisait 25 ans ce mercredi 1er mai. Personne ne l'a oublié, il a tant marqué son époque. Hommage, souvenir, au Brésil, Magic Senna est plus que jamais dans le cœur des Brésiliens. Le reportage de Sarah Cozzolino.
Nous sommes en plein centre de Rio de Janeiro où une peinture murale d'Ayrton Senna continue d'émouvoir les cariocas 25 ans après sa mort.
C'est l'illustration d'une de ses victoires à Sao Paulo. Il était très fatigué, très affaibli par cette course épuisante et quand il a soulevé le trophée, il n'avait plus de force. Cette scène nous est restée en mémoire. Mon Dieu, c'est très émouvant.
Bruno Ferreira passe devant cette peinture tous les jours et se souvient les larmes aux yeux de son idole.
On n'avait pas vraiment de héros et peut-être que lui justement a réussi à représenter la population, le peuple brésilien.
Le mythe Senna commence dans les années 80, une période sombre post-dictature marquée par l'hyperinflation. Alors avec Senna, les Brésiliens retrouvent la fierté pour leur drapeau et le regarder devient une tradition comme chez Leonardo Videla.
C'est quand il devient champion pour la première fois. À partir de là, on développe un rituel et on regarde la Formule 1 tous les dimanches pour le voir devenir double champion puis triple champion. C'est devenu une vraie tradition. Pendant le repas de famille, on suivait la course. Mais pas parce qu'on aimait les courses automobiles, parce qu'on aimait lui.
Lui, son casque jaune et vert aux couleurs du drapeau brésilien, sa détermination, son exceptionnel pilotage sous la pluie, mais aussi sa personnalité. Pour Carlos Siqueira, il était comme un membre de la famille.
C'est quelqu'un qui aidait les autres. Il avait créé une fondation pour récolter de l'argent et le donner à des œuvres caritatives. En plus d'être un bon pilote, il avait un grand cœur.
Carlos a gardé la page du journal du jour de sa mort, le 1er mai 1994. Ce jour-là, Felipe Pessania n'avait que 7 ans, mais il s'en souvient encore.
Ça a été un choc énorme. Moi, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas bien ce qu'il se passait. Mais je me souviens à quelle place j'étais assis dans le salon, de la tristesse de mes parents, de voir ma mère pleurer.
Si aujourd'hui une grande partie des Brésiliens ne s'intéressent plus à la Formule 1 depuis la mort de leur idole, tous se souviennent de la musique de victoire d'Ayrton Senna, une musique qu'ils aimeraient bien entendre à nouveau. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Ayrton Senna, toujours dans les cœurs et pour preuve, hein, le pape François lui a rendu hommage mercredi, place Saint-Pierre de Rome, avant la messe, un casque du pilote brésilien ainsi qu'une sculpture de son buste lui ont été présentés. Allez, le foot. Espérance de Tunis, Wydad Casablanca, finale de la Ligue des champions africaines, on le sait depuis hier. Pour la C2 Afrique, la Coupe de la Confédération, c'est tout frais. Antoine Grenier, bonsoir.
Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde.
Une finale 100% nord-africaine, pas de suspense hein, de toute façon Antoine. Les demi-finales étaient déjà 100% nord-africaines. Le Zamalek du Caire affrontera en finale les Marocains de la Renaissance de Berkane. Deux équipes qualifiées au terme de demi-finales compliquées.
L'étoile du Sahel d'abord a dû se contenter du match nul 0-0 face au Zamalek du Caire. Après la victoire 1-0 du match aller, l'équipe égyptienne était d'ailleurs clairement venue défendre. Elle a eu chaud en voyant son gardien expulsé lors du temps additionnel pour une main hors de sa surface. Deuxième carton rouge, mais la main est très très limite. Farouk Kattou, vous êtes notre correspondant en Tunisie. L'étoile du Sahel aura buté sur un mur ce soir malgré une dernière occasion en fin de match.
Absolument, il y a eu cette occasion énorme avec l'expulsion du gardien de Zamalek, mais auparavant on a joué à, notamment en deuxième mi-temps, un jeu attaque contre défense. La possession du ballon était à 90% du côté étoilé. Le Zamalek s'est contenté de défendre. Il y avait certes une très très forte défense, très très soudée et très compacte du Zamalek, mais le gardien Mahmoud Guerche a joué un grand rôle. Il a arrêté pas mal de ballons et l'étoile a été à court d'arguments, il faut le reconnaître, à l'approche de la cage du gardien du Zamalek. Auparavant, la première mi-temps a été beaucoup plus équilibrée, même si la possession du ballon était à 60% pour l'étoile du Sahel. L'étoile du Sahel avec Kechlid, avec Hanesh, avec Msakni, avec Chichaoui, mais elle n'a pas trouvé le moyen de percer cette défense du Zamalek qui était venue à Sousse, l'équipe du Zamalek qui était venue à Sousse effectivement pour justement sauvegarder son avantage acquis lors du match aller qui lui a valu la qualification pour cette finale de la Coupe de la Confédération.
On imagine forcément le public de Sousse déçu d'avoir vu son équipe tout simplement impuissante face à un Zamalek qui l'a joué à l'expérience.
Absolument. Pourtant, ce public de l'étoile du Sahel, le public de Sousse, de toute la région du Sahel, a été d'un apport certain, un grand apport durant toute la rencontre, même durant le temps additionnel. Ce public n'a pas cessé une seule seconde à encourager son équipe. Et là, forcément, on le voit quitter le stade avec un certain goût d'amertume, parce que au vu de la prestation, disons pas du résultat, mais de la prestation de l'étoile sur les deux matchs, elle aurait pu aspirer à la qualification à cette étoile du Sahel qui a remporté il y a moins de 10 jours la Coupe arabe des clubs champions. Elle est revenue dans la compétition avec une très très belle équipe après l'arrivée de Roger Lemaire à la tête du staff technique. Mais malheureusement, elle quitte la Coupe de la Confédération qui était l'un de ses principaux objectifs pour la saison en cours.
Farouk Kattou en ligne avec nous depuis Sousse, notre correspondant en Tunisie. Sous l'étoile du Sahel voit donc le Zamalek se qualifier pour sa toute première finale de Coupe de la Confédération et ce depuis la création de l'épreuve en 2004. Frédéric.
Alors Antoine Grenier, un peu plus tôt dans l'après-midi à Berkane au Maroc, le club sportif sfaxien a chuté dans une ambiance détestable.
Des bagarres entre joueurs, des jets de projectiles sur la pelouse, l'arbitre sénégalais violenté et son assistant escorté jusqu'au vestiaire par les services de sécurité. Des supporters et des membres du banc tunisien l'ayant violemment pris à partie à la fin de la rencontre. C'est une demi-finale retour qui va avoir des suites disciplinaires. Au plan du jeu, les Sfaxiens étaient venus avec un avantage de 2 buts après leur succès 2-0 du match aller. Leur avantage a fondu en 20 minutes à la 8e d'abord sur un pénalty litigieux transformé par Kodjo là-bas. Puis l'avantage tunisien a été réduit à néant sur un coup franc d'Amsaoui, 25 mètres pleine lucarne pour la photo. Et puis à la demi-heure de jeu, Berkane a pris un avantage définitif en marquant le 3e but sur un corner joué rapidement. Issoufou Dayo, le Burkinabé, a mis Renaissance sur les rails définitivement. 3-0, score final. Kodjo Laba, premier buteur de cette rencontre pour l'attaquant international togolais. Son équipe ne s'est simplement pas posé de questions.
Je pense que c'est le courage et la détermination. On n'avait rien à faire avant le match parce qu'on avait perdu 2-0. Et on s'est mobilisé, on s'est encouragé à mettre dans la main et on a fait un grand match, j'espère, aujourd'hui. Et on a eu la chance de marquer un peu plus tôt dans le match. Et voilà, on a remporté ce match 3-0. On reste concentré encore. Il reste encore deux matchs aller-retour. Donc, à nous d'être concentrés pour pouvoir faire quelque chose de très, très historique.
Kodjo Laba, le Togolais de Renaissance de Berkane, au micro d'Anas Yassine. Renaissance Berkane, présidé, on le rappelle, par le patron de la fédération marocaine, Fouzi Legja, qui s'offre la première finale continentale de son histoire.
Alors, ambiance détestable sur la pelouse. En fait, cela avait commencé bien avant le coup d'envoi.
Les Tunisiens du CS Faxien avaient dénoncé une tentative de déstabilisation. L'alarme incendie de leur hôtel à Berkane s'était déclenchée à 5h du matin, obligeant les joueurs et le staff à évacuer. Pas idéal, un jour de match. Deux nouvelles accusations qui visent Renaissance de Berkane. On se souvient, les Sénégalais du Djaraf, de Génération Foot, et ceux de Mbour Petite-Côte avaient déjà dénoncé l'accueil qui leur avait été fait par le club marocain. Un bus hors d'âge, des difficultés d'accès au terrain d'entraînement, des accusations contre Berkane fondées ou pas, mais ça commence à faire beaucoup.
Allez, du foot en Côte d'Ivoire à présent, Antoine, c'est un sacre historique pour la société Omnisport des armées, pour le championnat de Côte d'Ivoire. Le club militaire d'Yamoussoukro, sacré champion, devient le successeur de la SAEC d'Abidjan.
Et les militaires avaient déjà le titre en poche depuis deux journées, à l'issue d'une saison d'autant plus réussie que l'équipe avait frôlé la relégation la saison dernière. Premier titre pour la SOA, club Omnisport créé en 1963 et qui n'aura laissé personne espérer, dominant le championnat quasiment de bout en bout. Emmanuel Kofi.
La société Omnisport de l'armée savoure une performance historique, un premier titre de champion de Côte d'Ivoire. Vestiaire, ambiance.
Ça va vraiment du bien de tenir le championnat juste depuis la deuxième journée jusqu'à présent. Vraiment, c'est un travail énorme. Vraiment, c'est un travail énorme.
Je suis très content. Il n'y a pas de mots quoi, pour qualifier ça. On a joué. On a joué.
Des joueurs, des dirigeants heureux au terme d'une saison réussie et ce sacre, colonel Koné Mamadou, président de la SOA.
C'est avec beaucoup de joie que nous avons savouré ce premier titre, compte tenu de toutes les péripéties que nous avons connues, surtout sur notre saison de l'année dernière. Cette année, l'équipe a été beaucoup solidaire. Elle a fait preuve de beaucoup de constance par rapport aux autres. Notre parcours le démontre. On a connu des moments de creux, des moments de doute, mais l'équipe est restée solidaire.
Leader depuis la deuxième journée du championnat, la SOA est-elle pour autant un beau champion ? Adam Khalil, journaliste.
La SOA a fait une saison régulière très, très, très dynamique. C'est tout le mérite pour cette formation. On va dire, c'est un beau champion, et devant la SEC, et devant l'Africa. C'est grand nom du football ivoirien.
Travail et discipline sont les clés du sacre des militaires ivoiriens. Aka Jean-Baptiste, entraîneur.
Nous avons eu un président qui nous a beaucoup encadré. Sa passion a réjailli sur l'équipe et les joueurs l'ont ressenti. Il était toujours présent aux entraînements avec nous. Il venait au match avec le peu de temps qu'il avait et c'est ce qui a donné beaucoup de force, d'assurance. Et les joueurs, en tout cas, étaient dans un confort et ils étaient beaucoup sécurisés lorsqu'ils voyaient le président toujours auprès de l'équipe.
Pour la Ligue des Champions, la SOA va se renforcer. Colonel Koné Mamadou.
Même si nous avons été champions, nous avons connu des moments de faiblesse. Donc, on va essayer de se renforcer. On va faire la promotion aussi de certains jeunes, en compagnie d'autres joueurs un peu expérimentés, capables de nous permettre d'avoir des résultats assez conformes à nos ambitions.
Les champions de Côte d'Ivoire seront fêtés dans quelques jours. Promesse du chef d'état-major des armées, général Lassina Doumbia.
Pour la première fois de notre histoire, nous sommes champions de Côte d'Ivoire. Ça ne peut être que de la joie et de la fierté que nous ressentons. Et nous prenons l'engagement maintenant d'honorer cette équipe. Cette équipe sera honorée par l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale.
Toute la haute hiérarchie militaire a salué tout à l'heure au stade Robert Champreau la performance de la SOA. Emmanuel Kofi, Abidjan, RFI.
Voilà la SOA qui a conclu sa saison par une défaite 3-2 face au Racing Abidjan. Le FC San Pedro termine deuxième de ce championnat, la SEC Abidjan troisième.
Le Togo s'offre lui aussi un champion tout neuf.
Oui, la 25e et avant-dernière journée du championnat a vu le sacre de l'association sportive des conducteurs de la COSA en faisant match nul à domicile avec ASOTR. La SCK décroche son premier sacre et s'offre aussi le doublé après la Coupe de l'Indépendance fin avril. Une performance hein, quand on sait que l'équipe n'est montée en première division qu'il y a seulement deux saisons.
Bravo à eux. Merci beaucoup Antoine Grenier. Le foot européen à présent qui nous emmène en Allemagne. Julien Méchaussy, bonsoir.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Vous êtes notre œil avisé sur la Bundesliga en direct ce soir de Berlin. Julien, on jouait ce week-end la 32e des 34 journées et le Borussia Dortmund a lâché prise hein, dans son duel à distance avec le Bayern de Munich pour le titre. Les hommes de Lucien Favre ont été tenus en échec hier à Brême, 2-2, alors que le Bayern a disposé d'Hanovre 3-1. Du coup, Julien, le Borussia a désormais 4 points de retard à 2 journées de la fin et a quasiment dit hier adieu au titre de champion.
Oui, hein, le BVB est en train de lâcher hein, sa fin de saison. On se rappelle la semaine dernière, déjà défait dans le derby, c'était face à Schalke. Le Borussia a concédé le match nul à Brême hier alors qu'il menait 2-0. Et les jaunes et noirs ont désormais 4 points de retard sur le Bayern. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il ne reste plus que 2 journées. Autant dire que le titre, c'est fini pour Dortmund. C'est dur hein, pour le Borussia qui a joué une superbe saison, portée notamment par Marco Reus. Et évidemment, on a commencé à parler ici de l'avenir de Lucien Favre, des discussions qui ont été mises de côté très très rapidement par les responsables du Borussia, qui ont confirmé ce week-end que Lucien Favre sera bien sur le banc la saison prochaine à Dortmund.
Alors du côté du Bayern de Munich, il faut y revenir quand même, le Français Franck Ribéry, entré pour les 20 dernières minutes, a marqué le troisième but. Une belle façon pour lui de finir sa carrière avec les Bavarois, puisqu'il a officialisé aujourd'hui qu'il quitterait le Bayern à la fin de la saison.
Oui, c'était déjà dans les tuyaux, mais c'est officiel depuis cet après-midi. C'est une grosse page de l'histoire du Bayern qui se tourne. Le Français qui a passé 12 années à Munich. Et c'était une vraie séquence émotion hier à l'Allianz Arena, parce qu'il y a eu le grand retour également d'Arjen Robben après 6 mois d'absence. Et on le sait, hein, le Hollandais qui quittera également le Bayern à la fin de la saison.
Voilà, il aura un beau jubilé bien mérité pour Franck Ribéry à Munich. En Allemagne, les 4 premiers du championnat, hein, Julien, joueront l'an prochain la Ligue des Champions. Donc ticket assuré pour le Bayern, le Borussia et Leipzig, même s'il reste 2 journées. En revanche, pour le dernier billet, la 4e place de la Bundesliga, la lutte fait rage entre Mönchengladbach, qui a été tenu hier en échec, 2-2, et qui ne profite donc pas du faux pas de l'Eintracht Francfort, qui a littéralement explosé cet après-midi à Leverkusen.
Ouais, c'était le gros match hein, de cette 32e journée ici. Défaite 6-1 pour les demi-finalistes de l'Europa League sur le terrain de Leverkusen. À 18h, l'entraîneur des Aigles avait décidé de faire tourner hein, en laissant notamment Luka Jovic, celui qu'on annonce au Real Madrid pour 60 millions d'euros. Et si on savait déjà hein, que le retour à Stamford Bridge s'annonçait compliqué après le 1-1 concédé à la maison, il va falloir donc oublier très très vite cette claque, cette surprise hein, du côté de Francfort.
Oui, l'Eintracht Francfort qui garde néanmoins 2 points d'avance sur Mönchengladbach, toujours 4e, donc l'Eintracht de la Bundesliga. Merci beaucoup Julien Méchaussi en direct dans Mondial Sport. Pour être complet, ajoutons que Schalke 04, Schalke 04 a assuré son maintien ce week-end après le nul face à Augsbourg, 0-0. Schalke 15e du classement, 8 victoires seulement cette année en Bundesliga, mais Schalke sauvé. Le mondial de foot féminin en France, il arrive à grands pas, Coupe du Monde du 7 juin au 7 juillet. L'équipe de France rêve forcément de frapper un grand coup à domicile. Alors, on n'en est pas encore là, mais le compte à rebours est lancé. Jeudi soir, en direct à la télévision, Corinne Diacre, sélectionneur des Bleus, a dévoilé sa liste, la liste des 23 joueuses qui disputeront la Coupe du Monde. Une grande absente, la Parisienne, elle joue au PSG, Marie-Antoinette Katoto, pourtant meilleur buteur du championnat de France. Décryptage, Éric Chorin.
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, écrivait le poète Frédéric. Mais Corinne Diacre n'est pas Lamartine et Marie-Antoinette Katoto a beau avoir marqué 22 buts en championnat de France cette année, elle n'a pas trouvé grâce aux yeux de la sélectionneur tricolore. Restez fidèle à ses principes, le groupe avant tout.
J'ai fait un choix fort. Maintenant, ce choix, il a été mûrement réfléchi. Marie-Antoinette, elle a un énorme potentiel. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais il m'a manqué de la performance dans les grands rendez-vous. C'est le pourquoi je n'ai pas mis Marie-Antoinette Antoinette Katoto dans la liste.
Des grands rendez-vous ratés, comme le match décisif pour le titre de champion de France face à Lyon, ou le quart de finale de Ligue des Champions contre Chelsea, que les quelques prestations en équipe de France de la jeune joueuse parisienne de 20 ans n'ont pas compensé. Une absence qui n'est même pas une surprise, dans une liste qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que Corinne Diacre avait communiquée il y a un mois pour les matchs de préparation face au Japon et au Danemark, les derniers d'une préparation commencée un an et demi plus tôt, la gardienne des Bleus, Sarah Bouadi.
C'est vrai que voilà, le groupe il est un peu le même depuis quelques mois, où on a construit quelque chose de fort au sein de ce groupe. Après, voilà, la coach a tranché sur des choix de groupe. Voilà, c'est une liste qui se respecte, et puis à nous d'aller faire le boulot dans cette Coupe du Monde.
Aux joueuses de faire le boulot, mais Sarah Bouadi et ses coéquipières lyonnaises, 7 joueuses sur 23 et autant de titulaires en puissance, ont encore deux petits boulots avant le match d'ouverture face à la Corée du Sud le 7 juin. Et pas des moindres, après avoir décroché son 13e titre consécutif de champion de France, l'OL au féminin peut encore signer le triplé avec la finale de la Coupe de France contre Lille le 8 mai, et surtout celle de la Ligue des Champions le 18 mai. Mais jeudi soir, quand elle a pris connaissance d'une liste où sa place était pourtant assurée, l'une d'entre elles, celle qui a marqué 74 buts pour les Bleus, je veux parler d'Eugénie Le Sommer, était, comme toutes les autres joueuses, soulagée d'en être.
Tant qu'il n'y a pas ton nom, t'es jamais sûr. Donc là, c'est vraiment les 23 qui vont y aller. Et aujourd'hui, voilà, c'est fait. Et la liste est là et définitive, donc c'est une bonne chose de faite.
Une bonne chose de faite sur la route du Graal, selon les propres mots de Corinne Diacre, un titre qui a toujours échappé à l'équipe de France féminine jusqu'ici. Pour cela, il faudra déjà être en finale le 7 juillet prochain. Une première et un objectif minimum pour les Bleus de Corinne Diacre.
Le président m'a fixé l'objectif d'aller en finale. C'est le contrat qui est établi entre lui et moi. Quand j'ai pris l'équipe de France à la demande du président Le Graët, les choses étaient, je pense, assez claires. En tout cas, pour moi, ce serait vraiment un échec, oui. Mais ça ne me fait pas peur. Au contraire, ce défi, il est vraiment excitant à relever. Quand j'étais joueuse, j'en aurais rêvé. Donc aujourd'hui, je peux le faire en tant qu'entraîneur, donc je ne vais pas me priver. Et je peux vous assurer que les joueuses ont également ce même objectif.
Un objectif ambitieux que les Bleus vont commencer à préparer avec un stage en Bretagne à Perros-Guirec le 8 mai, mais sans les 7 lyonnaises qui les rejoindront après la finale de Ligue des Champions face à Barcelone le 18 mai à Budapest.
Et cette finale de Ligue des Champions Lyon-Barcelone, nous vous la proposerons en direct et en intégralité. Merci beaucoup Eric Chorin. Il n'a plus joué sur terre battue depuis 3 ans, mais le revoilà sur terre à 37 ans. Roger Federer, 4e mondial, il va disputer le tournoi Masters 1000 de Madrid qui débute demain. On parle de tennis, bien sûr. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem sur la terre battue de Madrid avant celle de Roland Garros avant la fin du mois. Notre correspondant à Madrid, Pierre Chaperon, a suivi l'arrivée sur place du maestro.
Au pays de Rafael Nadal, Roger Federer connaît son petit succès. Le Suisse attire les foules, les ventes de places sont en hausse, 400, 500 spectateurs, ses entraînements sont très suivis. Esteban, la trentaine, chapeau sur la tête pour se protéger du soleil, a encore des étoiles plein les yeux.
Je ne l'ai jamais vu, jouer en vrai. Et là, je peux le voir. C'est une bonne opportunité, non? Quand tu es une légende du sport ici, et si tu aimes le sport et le tennis, et que tu ne sais pas apprécier ce mec, alors c'est que tu n'as rien à faire dans le tennis.
Une bonne nouvelle pour le tournoi madrilène et pour Feliciano Lopez, son tout nouveau directeur, un joli cadeau d'arrivée.
Quand j'ai su qu'il avait décidé de jouer à Madrid, je crois qu'il avait déjà pris la décision. Je crois que ça a été aussi un travail de tous les gens qui sont ici, qui ont préparé dans le temps ce possible retour avec lui. Et surtout, c'est lui qui a décidé que c'était ici qu'il allait faire son retour dans un tournoi de terre battue. Federer a décidé de jouer ici parce qu'il considère peut-être que c'est le meilleur pour lui et pour bien jouer à Roland Garros, il a choisi de jouer plus de tournois et donc voilà, nous sommes seulement reconnaissants et nous lui souhaitons aussi le meilleur pour cette semaine.
À Madrid, Roger Federer a été reçu comme une star dès son arrivée vendredi. Le Suisse a même été accueilli par la maire de la capitale espagnole, Manuela Carmena, à 3 semaines des élections municipales ici en Espagne. Une visite de prestige est toujours bonne à prendre. Un retour très apprécié par le numéro 4 mondial.
C'était bien, c'était sympa, j'ai eu de la chance qu'il fasse beau. Quand j'ai commencé à m'entraîner ici, ça aide. Je me souviens que la dernière fois, il y a 3 ou 4 ans, il neigeait et ça ne m'avait pas trop motivé pour aller m'entraîner sur terre battue ou taper des balles en salle. Cette année, c'était simple et je suis vraiment très content. Je suis aussi content de la décision que j'ai prise, je crois, autour de décembre, quand j'ai commencé à penser vraiment ce que je voulais faire sur terre battue. Ce qui était une bonne décision parce que je n'avais pas encore construit ma saison sur terre battue. Tout n'était pas encore fait. Je suis heureux, je suis ici et je suis heureux de jouer sur cette surface, oui.
De la voir Federer soulever le trophée dimanche prochain, pas sûr pour le journaliste de As, Nacho Albaran, même si les conditions générales pourraient favoriser le natif de Bâle.
Je ne sais pas, parce qu'il a passé tellement de temps sans jouer sur terre qu'au final il part un peu dans l'inconnu. Bien qu'il soit le meilleur de tous les temps, c'est compliqué de savoir. Mais c'est vrai que c'est un tournoi et c'est peut-être pour ça qu'il l'a choisi, qu'avec ses questions d'altitude et la rapidité de la balle, ça peut l'aider.
4 ans après une défaite au deuxième tour face à l'Australien Nick Kyrgios, Roger Federer est de retour à Madrid afin de préparer au mieux Roland Garros. Peu importe son parcours, le Suisse a déjà conquis le public exigeant de la capitale espagnole. Un premier succès. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et Roger Federer fera son entrée dans le tournoi à Madrid mardi soir contre le vainqueur du match entre Richard Gasquet et l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. L'heure du handball est arrivée, du retour à la réalité pour les clubs français engagés en Ligue des Champions masculine. L'an passé, ils étaient 3 au Final Four de Cologne, 3 sur 4. Cette année, il n'y aura personne, ni le tenant du titre, Montpellier, ni le vice-champion d'Europe, Nantes, pas plus que les handballeurs du Paris Saint-Germain. Christophe Diremzian, bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Le PSG, les handballeurs du PSG étaient condamnés à l'exploit hein, cet après-midi après la gifle reçue à Kielce en Pologne le week-end dernier lors du quart de finale aller, défaite 34 à 24. Cet après-midi, dans leur salle de Coubertin à Paris, les joueurs du PSG ont gagné, hein, mais de 9 buts seulement.
Ouais, il s'en est fallu de peu, 35 à 26 à l'issue d'un scénario qui a fait monter la température dans les tribunes et sur le parquet. Beaucoup d'engagement et parfois de nervosité dans ce match que les Parisiens ont rapidement pris à leur compte en première période avec des solutions sur les ailes et une défense solide. Kielce a subi au point d'accuser 7 buts de retard à la pause. Tous les espoirs étaient permis pour le PSG qui a même entrevu la qualification en seconde période avec 11 buts d'avance. Mais tout s'est compliqué avec le carton rouge de Mikkel Hansen, le Danois, à 5 minutes de la fin pour un mauvais changement. Kielce a tiré parti de l'infériorité numérique et s'est mis à l'abri pour de bon. Il retrouvera le Final Four de Cologne pour la première fois depuis son sacre en 2016. Contrairement donc aux Parisiens, frustrés d'avoir en quelque sorte payé pour quelques temps faibles, à l'image de l'arrière Nedim Remili, pourtant excellent avec ses 13 buts.
Ça s'est joué à des quelques actions, voilà. Aujourd'hui, on savait qu'on aurait des occasions d'y croire. On a mis énormément d'énergie pendant ces 48 minutes et puis eux, voilà, on peut leur tirer un peu le chapeau quand même. Parce qu'ils ont su garder la tête froide malgré les assauts qu'on a pu faire, même défensif, offensif. On a vraiment mis tous les ingrédients pour faire un très très grand match aujourd'hui. Et si on regarde intrinsèquement, c'est un très très grand match de notre part. Mais c'était pas assez grand malheureusement pour la qualification.
Nedim Remili déçu, mais sans doute pas aussi triste que son glorieux aîné Thierry Omeyer, car à 42 ans, l'ancien gardien des Bleus et du PSG a joué le dernier match européen d'une carrière qui s'achèvera à la fin de la saison.
Alors une saison où le PSG, une fois encore, Christophe, comme les footballeurs, le PSG handball devra, malgré son budget, malgré son équipe de stars, eh bien se contenter de titres nationaux.
Oui, sans doute le championnat, pas encore gagné, mais c'est en bonne voie, et la Coupe de la Ligue, reportée à la mi-mars. L'Europe, elle, attendra donc encore. Les Parisiens fréquentent le dernier carré continental depuis 2016, finaliste 2017, troisième en 2018, et là, même pas convié au banquet final. Échec, régression, pourrait-on logiquement penser. Pas du tout, rétorque le manager général Bruno Martini, très agacé d'ailleurs qu'on mette trop la pression sur son club.
Pourquoi c'est le Paris Saint-Germain qui doit porter sur ses épaules le poids de la réussite ou non du handball mondial? Faut rester mesuré. Le Paris Saint-Germain, c'est un club comme les autres à ce niveau de compétition. Des fois, il gagne, souvent, des fois, il perd, ça arrive. Et ben voilà, on repartira plus fort l'année prochaine. Remettons les choses en perspective. Ne pas se qualifier pour le Final Four, c'est douloureux. Parce que c'était évidemment que tout le monde avait envie d'y aller, évidemment qu'on a envie d'aller le plus loin possible dans une compétition quand on la joue juste pour la gagner, de toute façon, la compétition. Mais pour autant, oui, on a perdu un match, on a perdu deux matchs de Ligue des Champions sur 16. C'est un échec?
En tout cas, c'est pour le PSG, c'est pas un progrès, ni pour le hand français de club en général, puisque donc Montpellier a été éliminé dès la phase de groupe, du jamais vu depuis la création de la Ligue des Champions en 93. Et Nantes a été sorti également en quart de finale retour hier par le FC Barcelone. Outre Kielce et le Barça, le Final Four des 1er et 2 juin inclura les Hongrois de Veszprém et les Macédoniens du Vardar Skopje, tirage au sort des demi-finales mardi.
Et bien voilà qui est complet. Christophe Diremzian, merci. Un mot de foot en France. Sachez que Saint-Étienne entretient son rêve rêve de finir à la troisième place, synonyme de Ligue des Champions. Les Verts sont allés gagner à Monaco 3-2. Ils n'ont qu'un point de retard sur Lyon à 3 journées de la fin. Mondial Sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée. Merci encore à Fabrice Viollet qui était à la réalisation. Et à bientôt. La